deux événements majeurs que j'ai cités. Et juste pour finir, on peut dire quand même que ces événements, globalisation, externalisation, révolution logistique, ils transforment pas seulement la production, ils transforment aussi la politique. En fait, il faut comprendre que ce qu'on se c'est que ça crée une concurrence généralisée entre les pays, et ça va plus loin que ça. Enfin, on externalise la grande usine, la société.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste.
Bonsoir. On attendait avec impatience que ça passe au rouge, on était pas sûr. Mais bon, tant mieux. Bonsoir, bonsoir Denis, bonsoir à tous et à toutes. Alors, ce soir, on aura peut-être à un moment de notre propos une interruption, puisqu'on attend un coup de fil qui va peut-être arriver de Paris, mais rien n'est sûr. Donc, on sera peut-être amené à interrompre notre échange, nos échanges ou nos diffusions pour passer notre intervenant. Alors cet intervenant, ça sera un camarade turc qui s'appelle Nezif, qui est lui aussi en grève de la faim en solidarité avec Zera Courteil, cette réfugiée politique turque dont on vous parle désormais depuis quelques semaines, presque deux mois. Pratiquement toutes les semaines, qui est toujours en grève de la faim pour l'obtention de son titre de séjour. En effet, il y avait la semaine dernière une audience très importante à la cour d'appel administratif de Paris. Je crois que j'ai bien tout dit dans les bouts. Et cette audience, elle était à l'initiative de la préfecture de police du 74, hein, de Melun. 94, pardon, de Melun, donc, au appel, enfin, pourvoi qui avait été demandé, puisque à chaque fois, le tribunal avait annulé l'obligation à quitter le territoire français de Zera. Et donc c'est la préfecture qui faisait appel, donc qui s'acharnait à vouloir absolument l'application de cette QTF. L'audience a été assez à la fois étrange et pathétique. Alors, étrange parce que la présidente du tribunal, hein, c'est une audience collégiale, hein, il y a une présidence avec deux assesseurs ou deux assesseuses, était assez, pas sympathique, mais assez rigide, comme peut l'être la justice, hein, à base de on n'est pas au spectacle, arrêtez le bruit dehors, dites à vos collègues d'arrêter, c'est pas un cirque, monsieur le député, non, vous n'aurez pas la parole, etc., etc. Bon, c'était, ça pouvait éventuellement donner plutôt mauvais signe. Bon, c'est la justice, hein, ils aiment bien se mettre en scène, hein, ça fait partie, on va dire, du colis, hein, ça. Et puis, de l'autre côté, une procureure de la République qui, visiblement, ne semblait vraiment pas avoir travaillé, d'une part, en amont, sur son dossier, et donc, bah, quand on travaille pas, hein, bah, on essaye de faire figure, hein, ça arrive à tout le monde, hein, on a passé des oraux, nous aussi, où on est un petit peu sec, donc on se raccroche aux branches et aux nos fondamentaux. Donc les fondamentaux, hein, c'est toujours les mêmes, hein, c'est terroriste, Bataclan, victime, famille, danger. Alors, visiblement, la procureure, elle a pas vraiment travaillé parce que elle sait pas ce que c'est que le groupe politique auquel appartient ou auquel est soupçonné appartenir Zera. Hein, c'est pas vraiment des islamistes. C'est pas le cas. En plus, leur méthode, c'est pas des méthodes comme celles qui ont lieu au Bataclan. Et en l'occurrence, il se trouve que certains membres du groupe politique dont fait partie Zera Courtaille ont combattu les islamistes à Raqqa ou dans d'autres lieux quand il y avait Daesh et l'offensive contre la Syrie et le Kurdistan syrien. Donc, pouf, hein, on va dire, elle a un peu tapé à côté, mais bon, hein, ça coûte pas cher et puis ça permet quand même de toujours fabriquer une pseudo-menace. De là à répondre sur les données administratives, c'est-à-dire à savoir pourquoi Madame Courtaille représentait une menace urgente et imminente qui nécessitait le fait de l'expulser du territoire français. Rappelons que Zera mesure 1m50, pèse 36 kilos et est en fauteuil. Et elle est reconnue officiellement comme handicapée puisqu'elle a un syndrome de Madelon-Norf, c'est-à-dire un handicap cérébral et un handicap moteur. Donc voilà aujourd'hui ce que représente pour la justice française, en tous les cas pour le parquet, les terroristes. Et donc la dame, elle a pas su trop expliquer en quoi il était nécessaire d'expulser cette personne. Il est vrai que bon, hein, il y avait pas grand chose dans le dossier, hein, à part le fait que Zera elle continue ses activités politiques auprès de sa communauté. De vie, hein, c'est-à-dire les Alevis et les Turcs de la région de Dersim. Elle continue ses activités également politiques, à savoir le combat contre le régime de Tayyip Erdogan en particulier, mais aussi contre le régime turc et la politique turque à l'encontre des minorités et à l'encontre des minorités politiques dans la société turque. Puisque on le sait, hein, on n'en parle pas souvent là, mais ça va, ça vient. Il y a des phénomènes de balancier dans la répression. On alterne les phases où on est tout le temps réprimé et les phases où la répression est super dure. Et actuellement, la répression est actuellement super dure pour tous ceux qui s'opposent au régime d'Erdogan. À titre d'exemple, le président du HDP. Donc, qui était le gros parti progressiste et pro-kurde, qui avait été député, hein, lors de la précédente législature en Turquie, avait été condamné une première fois à 5 ans de prison pour... je ne sais même plus, mais en tous les cas, il avait été condamné pour une fois à 5 ans de prison. Puis il arrivait là, au bout de sa peine, en tous les cas au bout de sa peine pour laquelle il pouvait sortir, et il a pris 3 ans de prison ferme pour insulte au chef de l'État pour un article qu'il a écrit dans une revue anglaise. Voilà à peu près le niveau de la liberté d'expression en Turquie. Hein, vous avez évidemment pu voir ou entendre les manifestations qui avaient eu lieu lors de l'arrestation du maire d'Istanbul. Et puis là, il y a 10 jours, il y a un journaliste franco-turc, collaborateur de l'AFP et de Libération, titulaire hein, d'une carte de presse turque, dont vraiment là on est dans les clous absolus, qui vient de se faire arrêter et qui est actuellement incarcéré et qui va passer en procès. Donc voilà à peu près le niveau de la liberté en Turquie et évidemment ça paraît justifié de pouvoir renvoyer une personne dont la tête est mise à prix dans ce régime. Alors, le positif, c'est que la décision de la Cour d'appel administrative a été rendue assez rapidement, moins d'une dizaine de jours. Mais alors, la surprise relative, c'est que, bon, alors certes, l'OQTF est annulée, donc on est dans la continuité des décisions qui ont été prises judiciairement auparavant, mais que la Cour d'appel administrative se déclare incompétente, d'une part, pour décider du statut de Zera, c'est-à-dire... lui accorder le statut de réfugié politique, ça, à la limite, on peut le comprendre, mais la demande de l'avocat de Zera, c'était d'obliger, de donner injonction à la préfecture du 94 de délivrer un titre de séjour, ne serait-ce que provisoire, afin que Madame Courteil puisse réaliser ses démarches dans un cadre, on va dire, plus pacifié, plus serein, quoi. Et la Cour d'appel s'est refusée à cette décision. Donc elle place Zera dans une espèce de zone grise où elle la déclare inexpulsable, mais en même temps, elle lui donne pas les moyens ou la possibilité d'avoir une existence légale ou juridiquement valide au regard de l'administration française. Elle se décharge en disant que c'est à l'OFPRA de décider si Madame Courteil peut revenir, Madame Courteil peut revenir dans son statut de réfugié. Et là, évidemment, l'OFPRA, hein, dans son grand courage et dans sa grande efficacité, hein, s'est déclarée incompétente et a renvoyé le dossier donc à la CNDA, à la Cour nationale du droit d'asile. C'est cette instance juridique du droit des étrangers qui est en mesure de donner soit des ordres, soit des décisions qui permettent de trancher des litiges qu'il peut y avoir, alors soit entre l'administration et les étrangers, soit entre l'administration et des institutions qui gèrent les étrangers et leurs droits, en l'occurrence par exemple l'OFPRA. Le problème, c'est que cette CNDA, évidemment, elle est complètement débordée, hein, elle est complètement inefficace, hein, comme à peu près tous les services publics aujourd'hui. Remarque, pas tous. On remarquera que quand la justice, il s'agit de taper sur les pauvres et sur les nécessiteux, il n'y a pas de problème. Là, il y a les comparutions immédiates, mais là, il n'y a pas les comparutions immédiates pour faire valoir ses droits. Petite incise personnelle. Donc, la CNDA, ça peut prendre des mois, voire des années. Donc, on se retrouve encore un espèce de no man's land juridique où Zera n'a pas de statut légal, mais est officiellement pas expulsable. Donc, n'hésite pas à m'interrompre si tu as des précisions à apporter ou si j'ai dit des bêtises. Hein. Donc, Zera n'admet pas cet état de fait, on serait à moins, et exige... Hein, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire à minima de l'obtention d'un titre de séjour d'une durée suffisamment longue pour lui permettre de développer l'ensemble de ses arguments et de la préparation de son examen par l'OFPRA et donc de la restitution de son statut de réfugié politique. C'est-à-dire que Zera ne veut pas se contenter, ne serait-ce que d'un récépissé ou d'un titre de séjour de 3 mois, quoi. Il faut quelque chose qui soit un peu plus solide. En l'occurrence, elle décide de poursuivre sa grève de la faim. On est aujourd'hui à plus de 200 jours, 206. J'ai eu l'occasion de voir Vera dimanche après-midi. Je crois qu'on peut dire qu'on est en train d'entrer dans... Alors, je fais tout de suite la remarque, j'imagine que les auditeurs et les auditrices doivent se dire « Quoi, 200 jours sans manger ? C'est pas possible, quoi !» Quand on fait ce type de grève de la faim, l'objectif, c'est de tenir. C'est-à-dire d'utiliser son corps comme une arme et de montrer l'impact de la grève de la faim sur son corps et de montrer également à son adversaire, quel qu'il soit, sa détermination. Donc, les fonctions vitales, elles sont assurées par l'intermédiaire d'eau sucrée, mais également de vitamines qui permettent au corps de fonctionner à minima, bien sûr, à minima sur ses fonctions vitales, mais qui empêchent, bien sûr, d'avoir tout un tas d'activités. C'est-à-dire que l'ingestion de nourriture, elle n'est pas solide. Ce n'est pas des repas, mais ce sont un ensemble de protéines, de vitamines, de sels minéraux qui sont donnés au corps et qui lui permettent, je le répète, d'assurer ses fonctions vitales. Mais évidemment, au-delà de plusieurs mois, voire, en l'occurrence de plusieurs trimestres, là on est à 200 jours, c'est malheureusement pas suffisant et on est en train d'arriver dans les zones où on dépasse les 200 jours où le pronostic vital il va être engagé, hein, ne serait-ce que le moindre. Alors sur les organes, bien sûr, c'est déjà extrêmement abîmé, hein, le rein, les foies, la rate, etc. L'affaiblissement des fonctions cardiaques, etc. Mais on peut tout à fait imaginer qu'il puisse y avoir soit un arrêt cardiaque ou soit ce genre de choses, quoi, où le corps n'ait plus l'énergie de pouvoir faire fonctionner ces dites fonctions vitales, quoi. Dimanche, c'était à la fois terrible et en même temps extrêmement. Évidemment, on était content de savoir qu'il n'y avait plus le QTF. Ça lui a redonné énormément de force et de courage. Ça lui a donné de la cohérence aussi, c'est-à-dire que ce qu'elle fait, elle le fait parce que ça fonctionne et parce qu'elle est en lutte. Mais visiblement, dans ce pays, dans cette société, il faut être capable d'accepter de mourir pour pouvoir avoir des papiers, quoi. Parce qu'il est évident que si elle se retrouve en Turquie, la sanction, elle sera immédiate. Alors, il y a déjà eu des cas, hein, de gens qui se sont retrouvés en Turquie comme ça. Hein. Par exemple, on a le cas d'une femme qui s'appelle Aiden Öztürk, hein, qui a été expulsé d'Allemagne, qui était à peu près sur des choses similaires à Vera Kourteil. Cette personne, elle a pu passer l'aéroport de manière plus ou moins sereine. Évidemment, il y a eu des contrôles. Et puis quelques semaines après son arrivée en Turquie, elle s'est baladée dans son village et elle a été enlevée par cet homme. Elle a disparu pendant 6 mois. Et on l'a retrouvée finalement en prison où elle a été condamnée à 3 ans. Elle est en train de toujours poursuivre son combat. Évidemment, elle a été torturée, elle a été victime de mauvais traitements. Donc voilà un peu les termes, hein, des traitements des oppositions minoritaires en Turquie. Alors, je suppose que au cours de ces semaines, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont pu se demander. Ce qu'ils pouvaient faire ou ce qu'ils pouvaient voir, hein, à juste titre, hein, se renseigner. Alors, on peut vous inviter à aller évidemment sur le site de OC Libertaire où il y a un lien qui vous renvoie vers la centralisation des informations sur le cas de Vera et puis les différentes initiatives qui sont faites. Il y a évidemment le mail de l'OFPRA, hein, vous pouvez envoyer des mails à l'OFPRA, des mails à la préfecture de police de Paris et à la préfecture de
les mails, c'est pas l'OFPRA qu'il faut les envoyer, c'est la CNDA.
Oui, c'est la CNDA, oui. L'OFPRA, c'était avant. Et il y a toutes les références qui seront faites. On aura l'occasion, pour ceux qui le veulent, de les réindiquer sur le site de l'OCL à l'issue de cette émission. Voilà. Denis,
Il y a eu des cas similaires qui étaient grèves de la faim qui duraient des jours et des jours, des dizaines et des centaines de jours, où finalement la police est intervenue, a pris la personne et l'a mis à l'hôpital, surveillée par les flics évidemment, pour la réalimenter de force. Mmh. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un risque là de ce que ça se passe?
C'est probable. Alors, c'est probable qu'il y ait ce truc-là, mais il y a deux éléments qui font que le pouvoir, que ce soit préfectoral ou le ministère de l'Intérieur, a un vrai dédain par rapport à cette question et à la question de ces Turcs, de cette communauté turque-là. C'est extrêmement particulier, hein. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas qualitatif dans ma bouche, hein. C'est une communauté qui est majoritairement issue de la communauté Alevi, dont les membres ont des parcours militants en Turquie, voire dans d'autres pays, en Belgique ou en Allemagne, assez intenses. La majorité d'entre eux, je pense à Gazil, à Nezif, enfin, excusez-moi, je dis les prénoms parce que je suis en train de lister, ont des statuts de réfugiés politiques. Il y en a quelques-uns, il y a les deuxièmes générations quand même qui sont nés en France, donc ce sont des Alevis.
Est-ce que tu peux nous dire, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est qu'un Alevi?
Alors, un Alevi, c'est une sous-branche de la religion chiite. Donc, à l'intérieur de l'islam, vous avez deux grands ensembles, le sunnisme, de Sunna, la règle, l'orthodoxie, donc qui est la majorité religieuse musulmane, qui est, on va dire, la branche historique, et les chiites. Alors, les chiites, ça vient du schisme. Donc c'est ceux qui sortent, la partie, le schisme en français, c'est la séparation. C'est le deuxième plus grand ensemble musulman. Alors le chiite, les chiites, vous les connaissez parce que c'est la religion majoritaire en Iran, mais c'est un chiisme particulier en Iran, hein, extrêmement rigoureux. Là, il y a d'autres sous-branches dans le chiisme. Il y a le zoroastrisme, il y a les druzes, etc., etc. Et les Alevis se distinguent par une très très grande tolérance. En gros, on pourrait rapprocher ça du soufisme. Hein. Très très grande tolérance vis-à-vis des autres religions, d'une part, des autres monothéismes. Une égalité somme toute formelle entre hommes et femmes, hein, et également des pratiques collectives très très importantes en termes de pratiques de la religion et un engagement très fort dans la communauté et dans la société. Ce sont par exemple énormément d'Alevis qui vont être moteurs dans l'histoire de la Turquie lors des moments politiques importants. Donc voilà, en gros, ça se rapprocherait du soufisme. Il y a une forme de spiritualité aussi qui peut s'apparenter à ça. Mais c'est pas un groupe complètement minoritaire, mais on va les retrouver en Turquie, hein, puisqu'il faut toujours le rappeler, hein, la Turquie, c'est vraiment une mosaïque de peuples extrêmement importants. Il y a des Grecs, il y a des Géorgiens, il y a des Abkhazes même, il y a des Alevis. Alors soit c'est par, on va dire, origine de langue, communauté de langue, soit c'est par communauté politico-religieuse, quoi. Et tout ça, c'est évidemment chapeauté par un État central hyper autoritaire, parce que pour faire parfois tourner et tenir la boutique, l'autoritarisme est justifié par le fait d'avoir cette disparité. Les Alevis, on va les retrouver énormément dans la Turquie plutôt de l'Est, hein, plutôt paysanne, agricole, voire montagneuse, notamment les régions de Dersim, Parsi, à contrario des régions comme celle de Diyarbakir sont des régions turques.
Il y a voilà, beaucoup de Kurdes ça. Qui sont allés.
C'est ça. Donc on va avoir des ensembles aussi qui vont être des ensembles des communautés qui vont aussi se rassembler ou qui vont partir ensemble dans le corps des exodes ruraux dans des villes pour constituer des quartiers. Donc on est dans des pratiques sociales où la communauté est hyper importante et l'individu évidemment peut-être pas ignoré, méprisé, mais en tous les cas c'est pas l'individualisme qu'on peut avoir comme en Occident, quoi. La communauté est importante, la solidarité entre les membres de la communauté est extrêmement importante et pardon, l'individu est susceptible et capable de se mettre au service de la communauté. C'est quelque chose qui est extrêmement valorisant et qui rejaillit sur les membres de son cercle familial proche. Alors, en l'occurrence, on accepte que le sacrifice ou la mise à service, à disposition de l'individu pour la communauté, c'est effectivement des choses qui peuvent apparaître comme extrêmement troublantes pour quelqu'un qui est travaillé, qui a une culture plutôt d'individualisme petit bourgeois occidental. C'est sûr que c'est pas les mêmes références, hein. Ça c'est évident, quoi. On aura l'occasion de vous donner des précisions par écrit pour aller plus loin. On va pas non plus faire toute l'émission là-dessus. Et puis on espère qu'on va pouvoir quand même sortir quelque chose de positif de tout ça. J'ai pas terminé mon propos. Je disais que l'État et le pouvoir préfectoral est traité ça avec beaucoup de dédain. Et surtout, elle a la possibilité de pouvoir utiliser ce token, cet épouvantail terroriste, puisque je vous en ai parlé en introduction de cette histoire, il y a parmi ces Turcs à Lévis, il y en a une petite dizaine qui avait été condamnée pour association de malfaiteurs en relation une association de malfaiteurs tout court. Il n'y avait pas relation avec une entreprise terroriste puisqu'il n'y avait pas eu d'acte de terrorisme au cours de l'année 2010. Et donc, on va dire, ces camarades cumulant les tares, les défauts, les handicaps pour pouvoir susciter une adhésion un peu plus massive, y a pas grand bruit autour de cette affaire. C'est quand même assez incroyable d'imaginer que depuis 200 jours, il y a une petite cabane juste à côté de la porte Saint-Denis, au niveau de la gare du Nord, de la gare de l'Est, pardon, tout au bout de cette route, juste devant la rue Saint-Denis, dans laquelle il y a une femme depuis 200 jours qui a cessé de s'alimenter, et juste à côté, il y a Nézif, il y a un homme qui a cessé de s'alimenter également depuis maintenant presque 100 jours. Tout cela pour pouvoir demander à vivre, même pas dans des conditions optimales, juste avoir un putain de bout de papelard pour leur permettre de se déplacer et de pouvoir essayer de vivre comme n'importe qui dans cette société de merde. On verra, bien, ouais. On va essayer de respirer. Non, fais pas de pause parce que la musique n'est pas vraiment passée. Bon, on va. c'est compliqué, hein. On va profiter de notre dernière demi-heure pour vous proposer une introduction à un sujet dont on parle régulièrement au cours des luttes et au cours des mouvements au cours de notre émission. C'est la logistique et ce sont les flux. Vous nous avez souvent entendu parler, critiquer, faire la promotion de moments de blocage, de questionnement autour de cette notion de blocage, de promotion de cette méthode de lutte. C'est effectivement quelque chose qui, depuis une dizaine d'années à l'intérieur du mouvement social, revient beaucoup. Mythologie du blocage, que ce soit sur les autoroutes ou sur l'essence ou sur les marchandises, etc., etc. Et évidemment, cette mythologie du blocage, elle est aussi à mettre en biais par les transformations de l'organisation de la production et de l'organisation de la société depuis bientôt une trentaine d'années. Et un des traits saillants cette modification de l'organisation du travail et de la production, c'est bien évidemment la logistique. Alors, la logistique, qu'est-ce que c'est ? C'est non seulement les camions, mais c'est aussi les entrepôts, c'est les codes-barres, c'est les logiciels qui gèrent les codes-barres, c'est l'informatique qui gère les stocks, mais c'est aussi, évidemment, le travail qui est lié à la logistique, et donc des travailleurs qui développe une culture autour de ce travail. Hein, c'est comme, évidemment, auparavant, les travailleurs de l'automobile, hein, qui étaient extrêmement importants en termes de masse, et qui donc avaient une culture, comme auparavant les travailleurs agricoles, etc., etc., ou d'autres, comme les travailleurs de l'acier, ou de la sidérurgie, ou les cheminots. Chaque secteur de production dans le capitalisme est capable de développer une culture et donc de développer des formes de lutte. Aujourd'hui, on estime que un emploi qualifié d'ouvrier par la DARES et par l'INSEE relève de la logistique. C'est donc les chauffeurs routiers, mais aussi les caristes, mais aussi les gens qui trient, mais aussi les livreurs, aussi les gens qui vont aller chercher les colis dans tous ces mondiales relais que vous pouvez voir désormais un peu partout, dans n'importe quel magasin ou dans n'importe quel bureau de tabac, etc., etc., etc. Et donc, il nous apparaissait important d'essayer de rentrer dans cette thématique de la logistique pour pouvoir acquérir des connaissances, essayer de comprendre son fonctionnement, son ontologie, c'est-à-dire son être propre, qu'est-ce que ça impacte, qu'est-ce que ça crée, puisque en termes d'analyse matérialiste, et oui, nous sommes matérialistes philosophiquement, hein, pas quand on a une forme comme ça de production, ça conditionne tout, c'est-à-dire pour pouvoir distribuer un colis à 8 heures du matin, il faut le trier pendant la nuit. Et donc, il faut des camions. Pour pouvoir stocker les colis et la logistique, il faut des entrepôts. Donc, ça modifie aussi l'organisation spatiale. Et ça crée aussi des tensions sur l'immobilier et sur l'espace. Puisque plus il y a de la logistique, plus il faut grand, plus il faut des entrepôts grands, donc des vastes zones où on stocke. Il faut aussi des bateaux, il faut aussi des standards et des normes pour que l'ensemble de cette circulation fait. Donc c'est à cela qu'on va s'atteler au cours de ces prochaines semaines. Quand on aura le temps, on vous diffusera quelques éléments qui nous ont apparu intéressants. Le premier de ceux-ci, ça va être l'intervention des meilleurs sociologues spécialistes de cette question, qui s'appelle David Gaborio. On a déjà eu l'occasion de diffuser tout ça. Vous pouvez les retrouver peut-être sur le site de l'Égrégore ou sur le blog de le Chat Noir, ou même peut-être sur La Primitive au cours de cette année. On vous l'a dit, on a un stock d'un an d'émissions, mais vous pouvez aller chercher par-ci par-là. David Gaborio, c'est toujours très intéressant. C'est intéressant parce qu'en plus, Gaborio a fait non seulement une réflexion autour de la logistique, mais aussi bosser en tant qu'ouvrier de la logistique pour essayer de comprendre comment ça se passait au plus près et quelles relations il pouvait avoir. Alors on va s'écouter ça, ça dure une dizaine de minutes et puis on aura l'occasion de le commenter. J'espère que ça va fonctionner et je sais pas si j'ai mis le bon truc, le bon morceau, mais c'est pas grave, on va prendre quand même, ça reste intéressant.
quasiment dans notre quotidien, les entrepôts dans l'environnement spatial, les livraisons à domicile, le transport de marchandises. Mais est-ce qu'on peut faire d'abord, pour commencer, une sorte de petit retour historique autour de la montée en puissance de la logistique? Est-ce que le secteur logistique a toujours été aussi important dans le capitalisme? Est-ce qu'il a toujours été considéré d'ailleurs comme un secteur à part entière? Quelles sont les grandes tendances?
D'abord, il faut distinguer un peu quelque chose, parce que logistique, c'est un mot qu'on utilise comme un terme courant. Quand on parle de logistique, là, on parle des activités logistiques, du secteur de la logistique. Et ça, alors, bien sûr, on peut dire que ça a toujours existé. À partir du moment où on commence à stocker des choses, il faut gérer des stocks, depuis que l'agriculture existe, en fait. Mais c'est pas vraiment comme ça qu'on peut comprendre ce que la logistique est devenue aujourd'hui. Il y a une autre histoire aussi qui est souvent racontée et qui, à mon avis, sert pas à comprendre la logistique telle qu'elle est aujourd'hui, c'est l'histoire militaire. Souvent on dit, voilà, il y a une histoire de la logistique militaire. Les logisticiens, ils aiment bien dire que Napoléon, c'était un très grand logisticien. Bon, pourquoi pas, mais je crois que pour comprendre la logistique telle que ça fonctionne aujourd'hui, dans le secteur fonctionne aujourd'hui dans le capitalisme, il faut revenir plutôt sur la seconde moitié du XXe siècle. Et là, il y a deux choses vraiment importantes qui vont transformer le secteur. Ça va changer les volumes qui sont échangés, la circulation des flux, mais aussi la nature de ces flux. Et ces deux choses, c'est globalisation et externalisation. Alors globalisation, c'est le fait que on se met à produire partout sur la planète et ce qu'on fait en réalité, c'est qu'on déplace les lieux de production, les sites de production dans des pays à bas coût. Et en fait, pour faire ça, il faut de la logistique. Parce que tout d'un coup, on se met à produire très loin, mais on continue de consommer principalement dans les pays occidentaux. Donc on crée une distance, et cette distance, il faut la gérer, et la logistique, elle est essentielle pour ça. Et non seulement la logistique, elle va émerger de ça, mais en plus, la logistique, après, va devenir un moteur. Parce qu'une fois que cette infrastructure, elle est en place, on pense par exemple aux conteneurs et aux porte-conteneurs, une fois qu'il y a cette infrastructure, ça va pousser à plus de délocalisation. Donc ça, c'est le premier élément essentiel. Et le deuxième... Alors juste une petite chose quand même, quand on parle de ça, on peut dire aussi que on dit souvent que la globalisation, ça sert à effacer les frontières. Ouais. Et en fait, si vous suivez bien ce que j'ai dit, on voit bien que ça n'efface pas les frontières, au contraire, ça les renforce, puisqu'on va utiliser les frontières, environnementales sont moins contraignantes, pour faire fonctionner la production. Et puis la deuxième chose, c'est l'externalisation, et ça c'est hyper important, on en parle moins, et pourtant c'est vraiment fondamental. Plus communément, on dit la sous-traitance. En fait, sous-traitance, c'est on se met à segmenter les unités productives. Pour le dire plus simplement encore, au lieu de tout produire sur un seul site, une grande usine, on va découper l'usine en plein de morceaux. Et là aussi, quand on découpe l'usine en plein de morceaux, en plein d'entités différentes, et ben on va créer de la logistique parce qu'il faut gérer la connexion entre chacune de ces unités productives. Donc si on se met à faire une pièce là, une pièce là, une pièce là, il faut gérer les distances. Et là aussi, la logistique, elle va pousser à l'externalisation. Donc c'est à partir du moment où on fait de l'externalisation qu'on parle vraiment de logistique à part entière. Avant, on n'en parlait même pas. Mais en fait, on va voir apparaître de plus en plus d'entrepôts. Et par exemple, au lieu de faire de la logistique dans l'usine automobile où il y avait un cariste qui faisait de la logistique, là, le cariste, il va être déplacé, il va le faire dans un entrepôt, il va devenir ouvrier de la logistique. Et pour bien comprendre le phénomène, il faut voir que ces deux phénomènes-là, ces deux éléments, la globalisation, l'externalisation, ils s'additionnent ou ils s'imbriquent. Et un exemple qui marche très bien, c'est de dire qu'aujourd'hui, un produit de grande consommation comme un smartphone, par exemple, en fait, il est produit et assemblé pièce par pièce aux quatre coins du monde, dans des dizaines de lieux qui sont différents. Et c'est important parce que souvent on dit que bon, il faut éviter de commander des colis, mais en fait, quand on commande un smartphone, le problème, c'est pas la distance entre le lieu de production et le lieu de consommation. En fait, le smartphone, il a déjà fait plusieurs fois le tour du monde à travers le fait que les pièces sont fabriquées dans plein d'endroits différents. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la révolution logistique, pour dire que ça a vraiment transformé le capitalisme. Alors on peut rajouter à ça différentes choses que je ne vais pas trop évoquer, mais il y a quand même l'essor de la grande distribution, l'essor plus récent du e-commerce, mais c'est peut-être moins fondamental que ces deux événements majeurs que j'ai cités. Et juste pour finir, on peut dire quand même que ces événements, globalisation, externalisation, révolution logistique, ils ne transforment pas seulement la production, ils transforment aussi la politique, vous l'avez dit, hein, c'est un sujet qui est politique. En fait, il faut comprendre que ce qu'on dit souvent, c'est que ça crée une concurrence généralisée entre les pays, ça c'est vrai. Mais ça va plus loin que ça, en fait. Quand on externalise la grande usine, on casse aussi, on décompose des bastions ouvriers. Et ça, c'est très important de voir que cette révolution logistique-là, elle a aussi produit des effets politiques considérables en affaiblissant. Les mondes ouvriers, ce qui fait qu'il y a beaucoup de chercheurs qui parlent aussi de contre-révolution logistique. Dire que c'est pas, il y a une révolution du point de vue économique, mais une contre-révolution du point de vue politique. Et c'est intéressant de le voir aussi sous cet aspect-là. Avant, la logistique, c'était une fonction. Une fonction, et il fallait transporter des produits, des matières d'un point A
à un point B. En fait, la nouvelle logistique ou l'empire logistique tel qu'il existe aujourd'hui, c'est plus ça. C'est plus ça. Si vous reprenez l'exemple des smartphones, par exemple, dans ces exemples-là, et il y en a, on pourrait vraiment les multiplier, ici, on utilise la circulation. On utilise la circulation pour créer de la valeur. Et du coup, ça crée une logistique à des échelles qui sont beaucoup plus grandes et d'une complexité aussi des chaînes logistiques qui est considérable. Et finalement, si on reprend des termes un peu marxistes, on peut dire que ça veut dire que la sphère de la circulation, aujourd'hui, elle occupe une centralité. Alors que dans le capitalisme d'avant, c'était plutôt la sphère de la production qui était centrale. Alors ça ne veut pas dire qu'elle a disparu, mais la sphère de la circulation maintenant est aussi centrale. On peut dire que les frontières entre circulation et production se sont un peu brouillées ou que les deux s'imbriquent. Et ça a changé plein de choses. On pourrait dire, si on reprend des termes plus français, entre le secondaire industriel et le tertiaire, les frontières sont beaucoup moins évidentes. Et par exemple, il y a un chiffre qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a la moitié des ouvriers qui travaillent dans le tertiaire. Et ça, c'est une conséquence de ça. Donc ça a des effets sociaux qui sont vraiment importants. Il y a plein de mots qui sont utilisés pour ça aujourd'hui, pour le décrire. Cette circulation-là des produits, où on produit un composant à un endroit, on les assemble à un autre endroit, on les emmène à un autre endroit, bref. Cette circulation permanente, on parle de chaîne de valeur globale. Ça, c'est un terme qui est important pour comprendre ce qui se passe. Il y a un terme qui est plus simple, je trouve, que de dire que c'est une forme d'usine globale. Et cette usine globale, c'est quelque chose de nouveau. C'est différent du fait de transporter juste des produits d'un point A à un point B. Donc vraiment, ça, c'est important. Et ça a créé plein de logiques productives qu'on ne pourrait pas imaginer dans le système d'avant. Par exemple, pour donner des exemples concrets qui existent, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut pêcher des cabillauds en mer du Nord, les emballer en Asie, pour ensuite les vendre en Europe du Nord. Et que ça a une vraie logique dans cette logique-là, c'est tout à fait possible. Et en termes de coûts, c'est rentable. Et même, ça marche à l'échelle française. Ça veut dire qu'on peut fabriquer des savons de Marseille à Marseille, les stocker à Orléans, et ensuite les faire redescendre à Aix, pour les vendre aussi à Aix. Donc ça montre aussi que... Alors bien sûr, ça a des conséquences environnementales qui sont désastreuses, mais ça montre aussi qu'en tant que consommateur, on n'est pas maître de tout ça. Il y a quelque chose qui se passe avant nous, et ce quelque chose, c'est de la production avec du flux. Puis il y a un autre aspect aussi pour expliquer pourquoi on peut dire produire le flux, c'est ce qui se passe ensuite dans les entrepôts. Parce que quand la logistique, elle devient stratégique, dans les entrepôts, dans les plateformes logistiques, il y a beaucoup de choses qui se transforment aussi. On voit apparaître des outils numériques, des logiciels de gestion, etc., etc. Et petit à petit, l'entrepôt, il devient une sorte d'usine à colis. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on produit du flux aussi, c'est parce que vu par le bas, vu depuis le monde ouvrier, on voit aussi des formes de travail ouvrier. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ouvriers de la logistique qui travaillent sur des tapis roulants, des convoyeurs, ça s'appelle, où circulent les colis. Et quand on les voit travailler, ce geste-là, devant le tapis, on pense tout de suite à la figure de Charlie Chaplin. Ouais. Et ça montre bien cette idée-là de produire le flux qui est vraiment importante. Mais juste pour finir, donc on voit bien que c'est une infrastructure clé du capitalisme. Alors, ce n'est pas la seule, il y a d'autres infrastructures aujourd'hui qui sont clés, notamment l'informatique, le numérique, ça aussi, c'est vraiment clé. La finance aussi, c'est une infrastructure clé du capitalisme contemporain. Mais juste pour finir, et sur un point un peu plus, aussi une perspective un peu politique, ça veut dire aussi qu'il y a cette forme de centralité-là, elle crée aussi des faiblesses. Et aujourd'hui, le flux, le fait de bloquer les flux, on en parle de plus en plus. Avant, on parlait de bloquer les usines pour avoir un impact politique. Aujourd'hui, on parle de bloquer les flux. Et ça montre bien aussi cette centralité du secteur aujourd'hui. Mais si on revient plus précisément à la question, effectivement, du coup, le secteur, il a évolué, il a changé sa présentation, il s'est valorisé. Par exemple, les revues de logistique, avant, elles s'appelaient manutention-stockage. Ouais. À un moment, elles ont changé de nom, elles se sont mis à parler de logistique, donc elles se sont appelées logistique, puis aujourd'hui, on parle de supply chain, donc on anglicise, et là, il y a une vraie forme de valorisation. Bon, mais ça se traduit concrètement aussi au sein du patronat. Et en France, ça, on l'a très bien vu dans les années vraiment très récentes. C'est nouveau, le fait que des grands patrons de la logistique rachètent des médias, par exemple. Ouais. Donc celui auquel on pense en premier, c'est Bolloré, par exemple. Ouais. Donc l'Empire Bolloré, c'est un empire logistique avant tout. Et le rachat de chaînes de télé, de maisons d'édition, etc., etc. Mais ce n'est pas le seul, en fait. Il y a aussi un autre empire logistique très important en France, qui est CMA-CGM. Donc c'est un des leaders mondiaux. Du transport de marchandises sur mer. Et CGM-CGM, donc la famille Saadé, a racheté BFM TV. Ça, c'est nouveau, c'est un nouveau positionnement pour ce type de patronat. Et ça aussi, ça illustre un peu la centralité du secteur. Et je trouve que le cas de CMA-CGM, il est vraiment très intéressant et impressionnant. Il faut bien comprendre que c'est un groupe, CMA-CGM, qui était très, très important depuis quelques années déjà, mais qui générait très peu de marge. Parce que c'est un des soucis de la logistique aussi, il faut faire des très gros volumes pour générer des marges. Et depuis le Covid, les prix du porte-conteneur ont explosé, ils ne sont pas redescendus au niveau d'avant, et c'est un groupe qui génère des profits très très importants. Et on voit par exemple aujourd'hui le patron de ce groupe, Rodolphe Saadé, qui se présente comme étant un proche de Macron. Mmh. Ça c'est nouveau. Avant, les grands patrons de la logistique, ils n'étaient pas présents dans ces univers-là, et maintenant ils le sont, donc ça c'est une autre forme de pouvoir logistique qui émerge. On le voyait encore avant ça déjà avec Amazon, qui a permis de rendre visible le secteur. Aujourd'hui, on n'en parle même plus. D'habitude, ça aurait été le premier sujet. Donc, Tant mieux, parce qu'aujourd'hui, on voit d'autres choses qu'Amazon. Il n'y a pas que Amazon. Mais ça, c'est vraiment important. Et puis, juste pour finir, ça a été évoqué en introduction. Je pense que le fait aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits sur des infrastructures logistiques. Ça montre une autre forme du pouvoir logistique et un autre endroit où le conflit se joue, la conflictualité se joue. Et tous les conflits qui sont liés à la construction d'autoroutes ou de grands projets fluviaux, comme le canal Seine-Nord-Europe en France, autoroute, on pense à la 69, ça montre des formes de centralité, des formes de conflictualité, mais à une échelle plus territoriale. Et je trouve que c'est intéressant à cette échelle-là aussi d'observer les conflits.
Alors voilà, c'est vachement mieux résumé que ce que j'avais présenté moi. Ça permet de poser quelques bases. Donc, on l'a vu, organisation de la production, création de valeur, modification des rapports sociaux, modification des rapports de l'espace, apparition forcément d'une force sociale, d'un groupe social, les ouvriers de la logistique, mais de l'autre côté, la bourgeoisie de la logistique, les patrons de la logistique, comme ça a été décrit, mais également création d'une société du tri, du classement, du code barre, cette espèce de dynamique de direction qui va être donnée par le secteur qui est le plus important, le plus dynamique, le plus central dans le cadre de la production de valeur, comme ça a été très bien dit. Donc on aura l'occasion certainement de redévelopper tout ça. Notamment, alors ça n'a pas été dit là, mais c'est dit à un autre moment par une autre intervenante, Carlotta Benvenu en l'occurrence, c'est-à-dire qu'on a quand même des formes d'exploitation qui sont extrêmement particulières. Toutes les formes d'exploitation sont particulières, mais elles sont hardcore. Je donne un exemple, hein, vous allez sur France Travail, vous allez regarder les emplois dans la logistique. Alors, soit ce sont des emplois qui sont qualifiés parce que vous pouvez disposer de connaissances en informatique, hein, notamment pour pouvoir gérer les logiciels et les stocks via des outils informatiques, soit ce sont des emplois qui sont dégradants. Alors il avait été fait l'évocation du tri sur les tapis roulants. Ce sont en général des emplois qui sont assistés par des machines ou par des robots ou par des logiciels et qui donc, on va dire, réduisent l'intervention humaine vraiment à un simple geste d'une part ou à un simple outil, une vocation utilitaire d'autre part. Alors en l'occurrence c'est par exemple les commandes vocales, on a un casque avec, pas toujours, mais un micro dans lequel on nous donne les informations et les références à aller chercher pour réaliser le travail, ou alors on va avoir vraiment la vocation sur le tapis à aller chercher les moments où la machine s'emballe ou commet des erreurs. D'autre part, ce sont des travaux ou des horaires de travail et des intensités de travail qui peuvent être extrêmement fluctuantes. En l'occurrence, là, la dernière annonce sur France Travail, c'est un travail, par exemple, c'est GSF, hein, GSF, c'est un groupe international qui fait à la fois du ménage, de la sécurité, de l'entretien de locaux, du gardiennage, etc., etc. Mais donc, qui investit dans la logistique pour la gestion de trucs. Alors, on va avoir du travail de nuit, mais du travail de nuit, ça va pas être 18h, 22h ou 18h, 4h. Ça va vraiment être la préparation du panier le matin. Donc là, en l'occurrence, GSF, le boulot, c'est 1h30, 7h30, 6 jours par semaine, à 28h. du mardi au samedi. Imaginez un peu ce que ça produit en termes d'éclatage, alors non seulement de la vie sociale, mais également sur le corps. Hein. Donc forcément, il y a un énorme turnover, quoi, de ces gens-là. Alors pour s'organiser après, je te raconte pas, quoi. D'autre part, on va avoir aussi énormément d'organisation du travail qui vont être avec des sous-traitants ou alors des auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que le travail le plus important et le travail le plus cher, l'organisation de la valorisation et de la production, elle va être conservée par la boîte, puisque c'est elle qui va avoir le capital le plus important pour pouvoir investir dans les machines, les robots de tri, les tapis roulants, etc. Et la masse de travailleurs pour pouvoir gérer cette production. Mais en amont et en aval, la distribution sur le dernier kilomètre, on va mettre à disposition éventuellement un camion, mais c'est parfois même pas le cas, et un contrat d'auto-entrepreneur, idem pour l'amont, pour l'arrivée des colis ou des objets. Et enfin, dernier point, et on arrêtera là-dessus, quel rapport ça crée aussi vis-à-vis du consommateur, quand par exemple tu utilises le système du drive, hein, c'est-à-dire que tu commandes vis-à-vis de ton smartphone ou vis-à-vis de ton ordinateur l'ensemble de ces courses que tu vas acheter, t'as, on va dire, une relation à la marchandise qui est encore plus, distanciée et encore plus fétichisée, puisque les objets ne sont plus, tu les touches même plus, tu fais même plus le choix, tu n'as plus que des images et tu as à l'autre bout de la chaîne des individus qui remplissent même à la limite ton coffre et qui font les sacs. Donc l'étape course et sauter, ce qui te laisse encore plus de temps pour pouvoir t'emmerder à regarder des séries à la con et éventuellement consommer. Il n'y a pas de petit gain dans le capitalisme, et on voit à quel point un modèle comme celui du supermarché immense ou de l'hypermarché qu'on avait pu avoir, qui était un peu le roi du modèle des années 70, la révolution de la grande distribution qui était vue comme un symbole de liberté, où tu pouvais toi-même, par ton propre service, faire des courses, va se faire éclater en deux temps, trois mouvements par ces nouvelles méthodes de consommation qui, évidemment, ne toucheront que les métropoles et que les centres-villes, puisqu'on a à la fois des gens qui n'auront pas le temps de faire leurs courses, qui également auront des problèmes pour se garer ou pour se déplacer parce que la mobilité ça coûte cher, mais à contrario, ces espaces qui seront, on va dire, suralimentés ou particulièrement bien desservis en termes de logistique, et ben de l'autre côté, les campagnes ou les zones rurales ou les périphéries qui, elles, seront pas très intéressantes en termes de volume, se retrouveront complètement marginalisées, et ça vaudra pas le coup de mettre des supermarchés ou des approvisionnements là-bas, quoi. Ça devra te déplacer pour aller chercher le matériel, la consommation, en tous les cas, tout ce qui est nécessaire à ta reproduction sociale. Voilà. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. On y reviendra parce que ça me paraît vachement intéressant. Ça permet de se poser des questions très importante pour ceux qui ont vocation à détruire ce monde et cette société, mais ça provoque aussi d'autres choses et ça permet d'y voir un peu plus, un peu mieux et de comprendre certains trucs. Voilà.
Bon, dommage, j'ai pas assez de temps pour vous parler des élections municipales qui vont avoir lieu.
Quel dommage.
Je voulais vous parler surtout des polices municipales, hein, puisque leur fonction va peut-être changer si le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunes, réussit à déposer son projet de loi qui pourrait étendre les pouvoirs des policiers municipaux. Jusqu'à maintenant, c'était limité à des contraventions, des trucs comme ça. Là, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Ça pourrait d'ailleurs concerner 9 nouveaux délits, comme la vente à la sauvette, le vol, les graffitis, la conduite.
C'est un délit, ça?
La conduite sans permis, l'occupation illicite des halls d'immeubles, l'usage stupéfiant, ou encore l'outrage sexiste ou sexuel aggravé. Donc voilà, normalement, c'est la police municipale devra pouvoir gérer ça par les fameuses amendes forfaitaires délictuelles, les AFD. C'est une sanction pénale alternative aux poursuites judiciaires. Ça permet à l'État de récupérer beaucoup de fric en peu de temps, sans que, au niveau judiciaire, ça pose des problèmes au niveau du temps de nos justiciables, de nos justiciers, oui. Alors là, c'est pas encore fait tout ça, puisque ça va normalement être discuté début février. Oui, début février. Faut déjà savoir que l'AFD, l'amende que je vous parlais tout à l'heure, c'est fixé, elle est fixée actuellement à 200 euros, minorée à 150 si vous payez dans les 15 jours. Macron a annoncé d'ailleurs le 16 décembre à Marseille qu'elle sera augmentée à 500 euros. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le taux de recouvrement de cette amende était de 34%, soit une amende sur trois. D'accord ? Donc, c'est quand même pas grand-chose comme rendement. C'est moins compliqué.
Ouais, mais ça crée deux trucs dans ce que tu viens de dire, comme d'habitude. C'est-à-dire que pour ceux qui ont une culture cinématographique assez élevée, voire une culture de BD assez élevée, donc on a le juge Dredd, c'est-à-dire qu'on a un individu qui est en charge de contrôler, sanctionner, percevoir et appliquer la loi. Hein, donc récupère des thunes, donc je vous raconte pas comment dire la motivation que ça va créer, hein, à la limite même peut-être qu'il va toucher un pourcentage pour les motiver, hein, puisque maintenant il faut payer les fonctionnaires au mérite, voilà. Donc voilà. Et puis surtout, ça crée notamment des populations les plus exposées à ce type de d'AFD, hein, de délit. Donc en l'occurrence, tu l'as dit, les gens qui sont dans la rue avec les occupations de hall, les outrages et puis les occupations d'immeubles, des jeunes qui commencent leur vie avec des milliers et des milliers et des milliers d'euros d'amende en stock.
Complètement.
Et c'est pas quelque chose qui est non seulement anodin, mais qui est infinitésimal. On se rend compte qu'il y a 3-4% de la population de moins de 18 ans qui ont des gruges derrière eux de 20 000 balles parce qu'ils se sont fait cartonner pour une occupation de hall une fois, deux fois, trois fois. Évidemment, ils ne sont pas solvables, mais bon, ça fait partie des grands pouvoirs de l'État. C'est que sur certains délits, et notamment sur ce genre de trucs, la justice n'oublie jamais. À titre personnel, j'ai eu la chance de retrouver des AFD, alors des amendes et des frais de justice, 17 ans après leur commission. 17 ans. C'est-à-dire qu'il y avait encore un vieux bout qui traînait dans un PC, et comment tu veux démarrer dans la vie comme ça, quoi. Donc c'est quand même dingue. Et vraiment, on se rend compte là vraiment de la nocivité de ces individus, quoi. Mais c'est ça qui est important aujourd'hui.
Ah ouais. Mais
c'est ça.
Le devenir d'être policier municipal, c'est vraiment un truc qui m'a toujours étonné, moi. D'ailleurs, au départ, la plupart des policiers municipaux, c'était des gens qui avaient raté
Le concours.
Maintenant, je sais pas, mais...
Ouais, bah écoute, je sais pas, mais en tous les cas, visiblement, on va avoir de plus en plus de cow-boys. Espérons qu'on aura de plus en plus d'Indiens aussi, quoi.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est... Ça peut être à la fois quelque chose de... Ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas... pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Radio Primitive.
Curieux et engagé.